Chapitre 13. Le lendemain matin, il envoie 4 voitures pour embarquer les jeunes. Mais les flics en uniforme reviennent avec 2 d'entre eux seulement. Julie Fennessy semble être toujours introuvable. Personne ne l'a vue depuis la nuit où Augie Williamson est mort. Une rumeur circule dans la rue selon laquelle elle serait en Floride, mais personne ne sait exactement où. Ça embête Bobby. La mère était visiblement inquiète au sujet de sa fille. Mais si celle-ci était impliquée dans la mort de quelqu'un, filer en Floride pourrait paraître une bonne idée, surtout pour une jeune fille de 17 ans. L'autre absent est George Dunbar, le dealer. C'est le fils de la nana que s'envoie Marty Butler, ce qui pourrait signifier que les flics ne se sont pas trop fatigués à le chercher, ou peut-être même qu'ils ne l'ont pas cherché du tout. Ce qui veut dire que lorsque Vincent et Bobby descendent aux cellules de détention, les 2 seuls trous du cul qui les attendent dans la salle d'interrogatoire sont Ronald Collins et Brenda Morello. Ronald Collins, un gosse de Southie issu d'une lignée de Collins qui remonte à l'époque de la Grande Famine, est aussi bête que ses frères aînés, son père et ses 3 oncles, dont la plupart, selon les récentes recherches effectuées par Bobby, ont fait de la prison. C'est un dur à cuire. Non parce qu'il est particulièrement dur, mais parce qu'il est trop con pour savoir qu'on n'est pas obligé de se comporter de cette façon. En revanche, avec Brenda Morello, yeux humides et menton tremblotant, c'est le jackpot. Elle est prête à tout déballer depuis l'instant où elle s'est fait embarquer tandis qu'elle se rendait à son job d'été chez Sullivan à Castle Island. Quand Bobby et Vincent entrent dans la salle d'interrogatoire, elle lève les yeux vers eux, le visage ruisselant de larmes, et les premiers mots qui sortent de sa bouche sont
« S'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer à la maison ?»
Bobby prend le siège en face d'elle. Vincent reste debout, ce qui, évidemment, rend Brenda encore plus nerveuse. Bobby lui adresse son sourire le plus amical. « On veut juste te poser 2 ou 3 questions. »
« Et après, je pourrais rentrer à la maison ?»
Elle peut se lever et sortir tout de suite. Elle ne fait l'objet d'aucune accusation. Mais elle n'en a pas conscience et l'éclairer sur ce point ne fait pas partie de leur boulot. « Peux-tu nous dire ce que tu as fait samedi soir ?» Brenda fait semblant de réfléchir un moment, les yeux levés au plafond.
« Je sais pas. J'ai traîné un peu. »
« Où ?»«
Vous savez bien. »
« Non, on ne sait pas. »
« Dans le coin ?»«
Dans le coin de Columbia Park ?» demande Bobby. Elle le regarde fixement. Sa tête se met à fonctionner furieusement maintenant que la question confirme toutes ses craintes au sujet de la raison de sa présence ici. « Tu y étais avec Ronald Collins, George Dunbar et Jules Fennessy ?» Elle tente un
« Peut-être ?»
« Pas de conneries de peut-être !» dit Vincent en passant derrière elle. Les yeux de Brenda s'emplissent de larmes. Vincent repasse derrière elle et se raidit, s'attendant à une gifle. « Brenda, » dit Bobby gentiment. « Regarde-moi. » Elle obéit. « On sait que tu y étais. Et puis, il s'est passé quelque chose. »«
Qu'est-ce qui s'est passé ?»«
Pourquoi tu ne nous le dis pas ?» Bobby voit bien que tout à coup, ça la ronge. Cette chose terrible qu'elle sait et qu'elle garde au fond d'elle depuis bientôt une semaine. Mais elle répond
« Il s'est rien passé. Je me souviens de rien de particulier. »
Bobby ouvre sa mallette et en sort une photo d'Augie Williamson qu'il pose sur la table. Pas n'importe quelle photo. Bobby ne prend pas de gants. C'est la photo de la morgue. Elle produit l'effet désiré. Le visage de Brenda s'affaisse et elle suffoque comme un poisson dans un seau.
« Non !»
dit-elle.
« Il s'est rien passé !»
À cet instant, Vincent la frappe vraiment. Juste une petite tape rapide avec les doigts à l'arrière de sa tête. Elle pousse un cri, d'indignation plus que de douleur. Bobby met un doigt sur la photo. « Ce jeune homme est mort. Et nous savons de sources sûres, Brenda, que tu fais partie des dernières personnes à l'avoir vu vivant. » Elle secoue la tête plusieurs fois.
« Non !»
Vincent se tient juste derrière elle. « Dis non encore une fois, petite merdeuse, et tu vas voir où ça te mène. T'as déjà passé un peu de temps dans une unité de soins intensifs ?» Bobby lui lance un regard du genre « on se calme un peu », puis il attend que Brenda tourne les yeux de nouveau vers lui avant de lui demander « est-ce que c'est toi qui as dit « tu cours pas vite pour un nègre ?» ?» La bouche de Brenda s'arrondit en un « oh » choqué.
« J'ai jamais dit ça !»«
Non ?» Bobby regarde Vincent une seconde. « On a entendu dire que tu l'avais dit. »«
Eh ben, il y a quelqu'un qui raconte des foutus mensonges parce que j'ai pas dit ça !»«
Mais tu étais sur le quai de Columbia Station quand quelqu'un l'a dit. »«
Je... Quoi ? Non, j'étais... Non, j'étais sur aucun quai. » J'étais à Columbia Park avec mes amis et je me suis disputée avec mon copain et je suis partie. Et eux, ils sont allés à la plage.
Nous avons des témoins qui t'ont vu sur le quai du métro.
Eh ben, ils mentent.
Pourquoi ils mentiraient?
Je sais pas. Demandez-leur.
On peut aussi te faire participer à une séance d'identification. Cette éventualité provoque un nouveau tremblement de son menton. Si on fait ça, cette dame que t'as bousculée, elle va se souvenir de toi, Brenda.
J'ai fait tomber aucune dame, dit Brenda avec une réelle indignation.
C'est pas ce qu'elle a dit, intervient Vincent.
Eh ben, elle ment.
Alors tout le monde ment, hein? C'est ça, Brenda?
Peut-être pas, mais elle, oui.
Elle était plutôt convaincante, dit Bobby. Elle a le coude, tout est gratigné. Elle dit qu'elle sortait de la rame de la ligne extérieure et que tu l'as heurtée.
On n'était pas sur le quai de la ligne extérieure, dit Brenda. On était du côté de la ligne intérieure.
Elle se rend compte de son erreur une seconde trop tard. Elle baisse la tête, regarde ses chaussures. Quand elle relève la tête, Bobby voit dans ses yeux qu'ils ont brisé sa résistance. Elle va tout leur déballer à présent. Elle va continuer de parler jusqu'au lever du jour. On frappe un petit coup à la porte, Vincent l'ouvre et se trouve face à Tova Shapiro, avocate. Avant même de franchir le seuil, Tova Shapiro s'empresse déjà de dire à Brenda « Tu la boucles maintenant !» Tova Shapiro est de la pire espèce d'avocat de la défense. Auparavant, elle était procureure, alors elle sait comment les flics pensent, comment ils s'organisent, comment ils agissent. Est-ce qu'ils t'ont lu tes droits ? Brenda n'a aucune idée de qui est cette femme. Est-ce qu'ils l'ont fait ?
Non,
parvient à répondre Brenda.
Je m'appelle Tova Shapiro. Je suis ton avocate.
Elle s'assied à la table près de sa cliente. Vous ne voulez pas plutôt dire que vous êtes l'avocate de Marty Butler ? Demande Bobby. Tova incline la tête pour le regarder.
« Salut, Bobby.
Comment ça va ?»«
Bien, Tova. Et vous ?»«
Super. Vous vivez toujours dans la maison de maman et papa ?»
Avant que Bobby puisse répondre, elle se tourne vers Brenda.
« Donc, ils n'ont pas respecté tes droits, Miranda ?»«
Quoi ?»«
Est-ce que quelqu'un a prononcé les mots « vous êtes en état d'arrestation »»«
Non.
Alors on peut partir. »
Là, tout de suite.
Là, tout de suite, mon chou.
En se levant, Brenda désigne Vincent du menton.
Il m'a frappé, lui.
Tova siffle doucement et dit à Vincent.
Avec des plaintes contre vous déjà en cours. Oh, Vinny.
Vous nous rendez la tâche trop facile.
Bobby met la photo d'Oggy Williamson devant les yeux de Brenda. Brenda la regarde, puis se détourne rapidement.
C'était un être humain, Brenda. Tu sais ce qui lui est arrivé. On peut te proposer un marché.
Tova éclate d'un rire perçant. Il faut pouvoir accuser quelqu'un de quelque chose avant de proposer un marché, Bobby.
On s'en occupe et ça va pas tarder.
Tova lève au ciel ses yeux ténébreux. Tout en elle est ténébreux. Ténébreux et diablement sexy. Sa façon de bouger, sa façon de rire, sa façon de se mordre la lèvre inférieure avant de lâcher une bombe ou une autre.
Vous n'avez rien.
Elle scrute son regard à la recherche d'une confirmation. Bobby espère qu'en réponse, il ne lui offre que des yeux vides. Il essaie aussi fort qu'il peut. On a des tas de choses.
Les yeux de Tova s'acharnent à sonder les siens, à l'affût. Si elle continue longtemps comme ça, il va avoir besoin d'une douche froide.
Je le répète, vous n'avez rien.
Ils sortent de la salle d'interrogatoire et trouvent Rum Collins dans l'entrée en compagnie de Boone Fletcher, du cabinet Fletcher, Shapiro, Dunn and Levine. En voyant Bobby, Boone roule les yeux d'un air condescendant, comme pour dire qu'il s'attendait à mieux de sa part. Et Bobby se sert de son majeur pour se gratter l'arête du nez. Vincent et lui restent dans l'entrée et observent les deux jeunes de Southie sortir avec deux avocats qu'ils ne pourraient pas s'offrir même s'ils gagnaient à la loterie tous les jours pendant un mois. Et Bobby sait que s'ils veulent résoudre cette affaire, maintenant c'est devenu vachement plus difficile. Après avoir terminé sa journée, Bobby sent les anguilles se faufiler dans ses veines et ça commence à le démanger. Dans le passé, la principale manière d'apaiser cette démangeaison était la seringue, la cuillère et la poudre brune. Aujourd'hui, il y voit le signe que cela fait trop longtemps qu'il n'est pas allé à une réunion. Il en trouve une dans le sous-sol d'une église de Roxbury. Il descend les marches menant à la salle qui sent comme sentent toutes les salles de réunion des narcotiques anonymes, le café, la fumée de cigarettes et les donuts. Il prend un siège dans le cercle. Assistance clairsemée ce soir, 9 personnes pour 25 chaises, et aucune n'est très bavarde. Un homme d'affaires blanc avec un attaché case a l'air vraiment en rogne. Une portoricaine vêtue comme une femme de chambre paraît gênée. Il y a un type noir, trapu, avec de grosses chaussures de chantier couvertes de la même poussière de plâtre que celle qui saupoudre ses cheveux. Une femme aux allures de maîtresse d'école, un homme d'âge moyen avec les yeux tristes d'un chien à la fourrière, un jeune gars d'une vingtaine d'années, probablement là sur décision judiciaire et dont on dirait qu'il est peut-être bien défoncé en ce moment même. Bobby est sûr d'avoir déjà rencontré 3 d'entre eux à d'autres réunions. L'hôtesse de l'air noir de la Paname, le chauffeur routier polonais, la femme qui fait penser à un oiseau et qui a perdu un de ses enfants dans un incendie. Mais ce soir, personne n'est d'humeur partageuse. Finalement, le type qui dirige le groupe, Doug R., se tourne vers Bobby et dit
« Et toi, l'ami, envie de partager ?»
Cela fait des mois que Bobby n'a pas partagé à une réunion. Il a été prévenu par son parrain, Mel, un flic à la retraite, que c'est un signe supplémentaire annonçant une possible rechute. S'enfermer dans ses propres conneries est une forme de malhonnêteté en soi. Après quelques toussotements secs et quelques tentatives avortées, il parvient à sortir 2 phrases.
J'ai fait ce rêve l'autre nuit. Ma mère et un ami à moi des Marines me cherchaient dans une rue à huer.
Ah ouais, quoi ?
Demande une femme aux cheveux blonds frisottés et aux yeux verts perçants. C'est celle dont Bobby avait pensé qu'elle pourrait être institutrice.
Hue, c'est une ville au Vietnam. J'y ai été affecté pendant un moment, alors, bon, ma mère qui est morte quand j'étais gosse et mon copain Carl Johansson, qui est mort pendant que j'étais là-bas, ils marchent dans cette rue à ma recherche et je les vois parce que je suis à l'intérieur de cette... Vous voyez, cette vitrine de magasin vide qui s'étend tout au long de la rue. Et je cours parallèlement à eux en hurlant « Hé, je suis là, je suis là !» Mais ils m'entendent pas. Je me mets à taper sur les vitres, mais ils m'entendent toujours pas. Puis j'arrive au bout du bâtiment, et je ne peux pas sortir. Ma mère et Carl continuent de marcher et de m'appeler jusqu'à ce que je puisse plus les voir. Et puis, au bout d'un moment, je les entends plus. Alors je me retourne dans ce magasin vide, et il y a une table avec mon briquet, ma cuillère et ma poudre. La seringue est plaquée de laiton. Il y a une chaise qui a l'air vraiment confortable pour m'asseoir, alors je m'y installe. Et je... Vous voyez, je prépare mon truc et je me shoote. Je vais pas vous mentir. C'était génial.
Les gens s'agitent sur leur siège.
Il sent braquer sur lui le regard insistant de Doug, qui se demande s'il n'a pas fait une erreur en demandant à Bobby de partager.
« Je pense, poursuit Bobby, que Carl était dans mon rêve parce que, pendant longtemps, je me suis servi de la guerre comme excuse pour me shooter. J'ai vu cette horreur-ci, j'ai vu cette horreur-là, alors je me suis retrouvé déboussolé. Mais c'est pas la guerre qui m'a déboussolé. J'en suis revenu sans une égratignure. En revanche, c'est bien là-bas que je me suis retrouvé déboussolé. Parce que j'étais de nouveau comme un enfant. Je ne connaissais rien, même pas la langue. Je ne connaissais pas leur dieu, je ne connaissais pas leurs coutumes, quelle était la bonne ou la mauvaise façon de se conduire. J'étais juste un gars de 22 ans avec un fusil. » Il jette un coup d'œil au groupe. Il ne peut pas dire d'après leurs regards ou leurs expressions corporelles s'il est trop long ou s'il a établi un contact avec l'un ou l'autre d'entre eux. Mais il continue, laborieusement, trébuchant dans chaque phrase, comme un tout petit enfant qui apprend à marcher. « Cette ville, ici, elle est grise tout le temps, en quelque sorte. Vous voyez ?» Il lève les yeux vers le plafond. « En ce moment, le soleil brille la journée, mais il fait sacrément gris 7 mois de l'année. Ou je sais pas, peut-être que c'était gris juste dans la maison où j'ai grandi. Je pense à ma maison après la mort de ma mère. Peut-être même quand elle était encore en vie. Et j'ai l'impression que tout avait la couleur du trottoir. Même l'air. Mais sur le théâtre des opérations, au Vietnam, il promène son regard tout autour du cercle. Vous n'avez jamais vu la couleur verte tant que vous n'êtes pas allé au Vietnam. Ça fait des années que j'essaie de la décrire et que j'y arrive pas. Les rizières, le matin avec la brume qui monte de l'eau et le ciel d'une teinte orange sanguine le soir, et les oiseaux qui rasent la surface des deltas et, je sais pas, on dirait un endroit que des dieux pourraient choisir pour partir en vacances. Un émerveillement permanent. Mais cette beauté s'est trouvée mêlée à la mort et a foutu la merde dans ma tête une fois que je me suis rendu compte que la mort, c'était moi, en train de me balader partout avec mon grand fusil. C'était moi qui tuais toute cette beauté. Il s'aperçoit qu'il a involontairement baissé la tête et corrige sa position. Il les regarde tous dans les yeux. Mais quand je me shootais, tout ça, ça disparaissait et je ne sentais plus que l'émerveillement. Quand je me shootais, j'avais comme l'impression que... Il observe le visage de la femme blonde. Il voit dans ses yeux quelque chose qui semble désespéré et plein d'espoir en même temps. L'impression que toute cette beauté se répandait dans mes veines. Elle était comme chez elle dans mon corps. Et je me sentais parfait. Je me sentais entier. La femme blonde cligne des paupières. Une seule larme tombe de son œil et, en arrivant sur sa pommette, elle se brise en 3 petites larmes que Bobby voit comme un trio de mots sacrés commençant par C. Communion, consécration, consommation. La femme détourne le regard, mais Bobby sent poser sur lui les yeux des autres dans la salle. Il hausse les épaules, subitement gêné d'avoir parlé si longtemps. Doug R. dit « Merci pour le partage ». Quelques applaudissements polis. Le type qui a l'air en colère dans son complet veston dit avec une prononciation très claire « Je suis accro à l'héroïne parce que Dieu, s'il n'est pas mort, est certainement en congé sabbatique. » Bobby sent que tout le monde s'efforce de ne pas grogner. Sur les marches de l'église, quand Bobby quitte les lieux, la femme blonde descend à côté de lui. Elle dit « Est-ce que les gens là-dedans savent que vous êtes flic ?» Il la regarde attentivement et se rend compte que son visage lui est vaguement familier. « Ce n'est pas quelque chose que je vais crier sur les toits. »«
Vous m'avez arrêté une fois, il y a 2 ans. »«
Merde. » C'est exactement la raison pour laquelle Bobby ne donne pas sa profession dans ses réunions.
Je ne vous ai jamais oublié,
dit-elle. Le visage dur, mais la voix gentille. Elle allume une cigarette et le dévisage à travers la fumée quand elle exhale.
Vous consommiez à cette époque-là?
Il y a 2 ans. Il hoche la tête. Ça devait être juste avant que j'arrête.
Alors vous consommiez, mais vous arrêtiez des drogués comme moi.
Bobby essaye de ne plus se cacher de ses vilaines vérités. Ouais.
Tous les autres ont regagné leur voiture. Il n'y a plus que 2 devant l'église. Une petite brise se glisse dans les arbres et agite les mèches de leurs cheveux. Ils entendent au loin la circulation sur la voie rapide du sud-est. Un bref coup de klaxon, le crépitement et le bruit étouffé des pneus des camions. Elle sourit. Un sourire chaleureux et soudain.
Vous m'avez arrêté, mais vous n'avez pas retenu de charge contre moi.
Ah bon ? Elle secoue la tête.
Vous m'avez mise dans une voiture et vous avez pris la direction du poste de police. Mais ensuite, vous m'avez demandé qui j'étais avant de devenir accro et je vous ai répondu que j'étais une droguée fonctionnelle. Merci. J'avais un bon job comme
assistante sociale, dit-il avec un sourire, le souvenir lui revenant. Vos cheveux étaient différents.
Au naturel, ils sont châtain terne. Alors, je fais une teinture maintenant. Une permanente.
C'est saillant.
À peine a-t-il dit cela qu'il a envie de se tirer une balle dans la tête.
Saillant.
Où il est allé chercher ce mot à la con ?
Vous m'avez conduite à une clinique de Huntington Avenue, dit-elle. Vous vous en souvenez ?
Un peu.
Vous êtes entrée avec moi et vous m'avez dit « Vous pouvez encore redevenir celle que vous êtes vraiment. »
Ça a marché.
Ça a pris encore 6 mois. Mais je suis clean depuis 481 jours maintenant.
Bravo.
Ça fait encore peur. Ça vous fait peur aussi ?
Oh oui. Elle lui tend la main.
Carmen.
Vous n'avez pas l'air d'une Carmen.
Je sais. Mais ma mère était fan d'opéra.
Bobby sourit, comme s'il savait quel rapport il pouvait y avoir entre les 2 choses. Il serre la main tendue.
Michael. Mais tout le monde m'appelle Bobby.
Bon Dieu ! Pourquoi cela ?
C'est une longue histoire.
Vous pourriez me la raconter en allant jusqu'à ma voiture ? Je suis garée à plusieurs rues d'ici et c'est un petit peu craignos dans le coin.
Bien sûr.
Ensemble, ils s'engagent sur le trottoir. C'est une douce soirée d'été qui sent la pluie. Bobby accompagne Carmen jusqu'à sa voiture. À un moment, il lance un regard de côté. La surprend en train de lui lancer aussi un regard de côté avec un sourire discret. Et il songe à la possibilité que ce n'est peut-être pas l'amour qui est le contraire de la haine. C'est l'espoir. Parce que la haine prend des années à se former, tandis que l'espoir peut déboucher au coin de la rue alors même que vous avez les yeux ailleurs.